hein, 28 avril. Et effectivement, ça s'est passé hier. On en saura plus sur le nombre de millimètres qui sont tombés. Ce sera une journée pluvieuse aujourd'hui encore, du sud de l'Aquitaine et l'Occitanie jusqu'à la Bourgogne. Des pluies qui seront bénéfiques, notamment entre l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. De part et d'autre de cet axe pluvieux, la journée va être changeante. Le ciel souvent voilé avec des ondées plus faibles en intermittence. Ce sera le cas du Limousin et du Berry jusqu'à la Champagne-Ardenne et entre les Alpes du Nord et les frontières allemandes. Plus à l'ouest donc du nord de l'Aquitaine au bord de Manche, les passages nuageux et les belles éclaircies vont se succéder jusqu'à la fin de la journée. Mais attention, en fin d'après-midi, une nouvelle perturbation fait son entrée par la Bretagne. Côté température ce matin, il fera entre 1 et 6 degrés sur le quart nord-ouest, de 6 à 10 ailleurs et entre 12 et 15 au bord de Méditerranée. Bah dis donc.
Merci beaucoup Caroline Chimot, vous écoutez RTL. Il est 6 heures.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Et on accueille Rachel Sadonine pour le journal. Bonjour Rachel.
Bonjour Jérôme, bonjour Caroline, bonjour à tous.
À la une ce matin, des boîtes aux lettres installées dans les écoles pour dénoncer des violences.
Et pour la première fois, le petit mot glissé par une enfant va donner lieu à un procès criminel. Un adolescent de 15 ans et sa mère en garde à vue après la mort d'un jeune du même âge à Châteauroux. Le PNACO, qu'est-ce que ça va être? Eh bien on vous dit tout sur ce futur parquet national dédié à la lutte contre la criminalité organisée. RTL qui vous dévoile ce matin les résultats de notre sondage BVA X-Sight sur les élections européennes. Élections par ailleurs menacées par des ingérences étrangères. Et puis le Paris Saint-Germain sacré champion de France pour la 12e fois. Ça y est, nouvel objectif, le triplé.
Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous allez surfer avec le marathon des ponts de mai qui démarre cette semaine.
Oui, la France dans les starting blocks puisqu'à partir de mercredi, c'est travail à mi-temps pour presque tout le monde.
A tout à l'heure après le journal.
RTL Matin.
RTL a donc choisi de vous raconter une histoire difficile ce matin, l'histoire d'une enfant de 10 ans, victime d'inceste.
Elle a été sauvée par une boîte aux lettres installée dans son école. Il y en a 150 déployées partout en France par l'association Les Papillons. Mais c'est donc la première fois qu'un petit mot glissé dans une de ces boîtes donne lieu à un procès criminel. En septembre prochain, l'agresseur de Lily, c'est son grand-père, il sera jugé dans l'Ain. Margot Munoz, vous avez recueilli le témoignage de la mère de la petite fille pour RTL.
C'est une camarade de classe de Lily, la seule à être au courant de l'inceste dont elle est victime, qui lui conseille de déposer un mot dans cette boîte aux lettres décorée de papillons. Émilie, sa mère, nous le lit.
Lily avait donc écrit « Il met sa partie du bas dans ma partie du bas, j'essaye de m'enlever mais j'y arrive pas ». Je peux vous dire qu'en tant que maman, vous savez pas trop ce qui vous arrive.
Pour la première fois, Lily, élève en CM2, met des mots d'enfant sur ce qu'elle subit de la part de son grand-père paternel.
Les boîtes aux lettres papillons ont sauvé ma fille, oui, ça c'est certain.
En 2022, elle commence avec sa mère une procédure judiciaire, ce qui libère la parole des autres fillettes de la famille.
Elle a aussi donc ses deux cousines qui ont aussi été victimes d'agressions sexuelles. Donc elle a fait un sacré job en mettant ce bout de papier dans cette boîte aux lettres, quoi. C'est énorme, quoi.
Aujourd'hui, Lily est adolescente. Il y a quelques jours, elle a reçu une lettre. Le procès de son grand-père aura lieu en septembre prochain.
Margot Munoz pour RTL.
Dans le Berry, la ville de Châteauroux sous le choc ce week-end après la mort d'un adolescent de 15 ans.
Le fils d'un restaurateur connu de tous, poignardé à plusieurs reprises dans la poitrine, dans le dos, au cours d'une rixe dans le quartier Saint-Denis. Le principal suspect, c'est un mineur. Lui aussi, âgé de 15 ans, déjà sous le coup de deux procédures judiciaires. Il a été placé en garde à vue avec aussi sa mère. On ignore encore pourquoi cette rixe a éclaté, ce qui s'est passé exactement à peine deux semaines après la mort de Philippe Kopman à Grande-Synthe dans le Nord. Cette nouvelle effusion de violence entre adolescents effraie les habitants de Châteauroux.
J'ai entendu un monsieur crier, je croyais que c'était une dispute. J'ai juste entendu, tu te rends compte, il a 15 ans comme toi. Qu'est-ce que vous avez fait ?
Je les voyais se promener tous, là. Il y avait une dizaine de comparses là, qui fumaient des joints librement, sans problème. Je l'ai dit la semaine dernière, je dis un jour ou l'autre, on aura un souci. Bon, malheureusement, c'est arrivé, quoi. C'est bien triste.
Des témoignages recueillis par Christian Panvert à Châteauroux pour RTL. La multiplication des agressions extrêmement violentes entre adolescents, c'est aussi celle de Samara, 13 ans, rouée de coups devant son collège à Montpellier. L'enquête administrative demandée par la ministre de l'Éducation vient de se terminer. Et en attendant ses conclusions, l'avocat de la mère de Samara donne des nouvelles de la jeune fille sur RTL. Elle ne va pas bien du tout. Un témoignage à écouter dans le journal de 7h30. 5 mineurs sont mis en examen dans cette affaire.
Le Le ministre de la Justice s'attaque au crime organisé et au trafic de drogue.
Éric Dupond-Moretti lance un grand plan. Il veut créer un véritable statut du repenti inspiré du modèle italien. Un crime d'association de malfaiteurs en bande organisée, passible de 20 ans de prison. Et même Cindy Hubert, une nouvelle institution judiciaire.
Oui, l'idée, c'est d'avoir un parquet dédié uniquement au crime organisé avec des magistrats ultra spécialisés sur le modèle du parquet national financier aux terroristes, centralisé pour mieux lutter contre les trafiquants de haut niveau, devenir le seul interlocuteur dans le cadre d'enquêtes à l'international. Alors, comment ce petit nouveau, ce PNACO, va-t-il se coordonner avec ce qui existe déjà? Les JIRS, ces juridictions spécialisées qui traitent aujourd'hui les affaires les plus complexes. Il y en a 8 dans tout le pays. La chancellerie n'a pas encore la réponse. Elle se donne jusqu'à l'automne pour trancher.
Précision de Cindy Hubert du service police-justice de RTL.
Le grand plan de lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue, Amandine Bégaud y revient à 8h moins quart sur RTL avec son invité Fabrice Rizzoli, spécialiste des repentis. Pour l'heure, il est 6h05. Mathilde Panot, convoquée par la justice pour apologie du terrorisme. La chef de file des députés insoumis réagit sur RTL.
Elle dénonce une tentative d'intimidation. Invitée du grand jury RTL, Le Figaro, M6, Paris Première hier midi, Mathilde Panot s'indigne de cette convocation qui fait suite à un communiqué de la France insoumise sur le conflit israélo-palestinien.
Vous n'avez aucun problème à ce qu'une présidente de groupe parlementaire aille expliquer une opinion politique devant une brigade criminelle. C'est à la fois une tentative de faire taire l'ensemble des voix qui s'élèvent contre le génocide en Palestine, mais il y a une atteinte à la démocratie fondamentale. Vous savez, quand une personne est condamnée pour apologie du terrorisme, ça veut dire que c'est une ennemie de la nation.
Mathilde Panot au micro RTL d'Olivier Bost.
Les Français s'intéressent de plus en plus aux élections européennes.
C'est le résultat du dernier sondage BVA Xsight pour RTL à 6 semaines du scrutin. 64% des Français se disent intéressés par ces européennes, avec toujours le pouvoir d'achat comme préoccupation numéro 1 et le Rassemblement National toujours en tête des intentions de vote. Mais cette campagne, elle intéresse aussi beaucoup à l'étranger. Émilie Beaujard, les européennes sont particulièrement menacées par des ingérences.
Oui, ces attaques ont pour but de déstabiliser le débat public et de dénigrer nos institutions. Ces dernières semaines, elles viennent surtout de Russie et prennent la forme de fake news sur les réseaux sociaux. Jean-Noël Barrot est le ministre en charge de l'Europe.
Nous avons observé une campagne de fausses nouvelles attribuant à l'accueil par les hôpitaux français de soldats ukrainiens une prétendue reprise de l'épidémie de tuberculose en France, ou encore tout récemment que la France connaîtrait une vague d'annulation de nuitées d'hôtel pour la période des Jeux Olympiques et Paralympiques du fait de la situation sécuritaire dans notre pays. Tout cela, ce sont des campagnes qui visent à influer sur l'opinion publique. C'est une atteinte portée à la démocratie.
Le ministre doit rencontrer très prochainement les opérateurs des plateformes numériques qui sont censés désormais lutter contre la désinformation en ligne. Il s'agit de maintenir la pression pour éviter un scénario comme en Slovaquie en septembre dernier.
Pendant les 48 heures qui ont précédé le scrutin, un faux enregistrement audio incriminant à tort l'un des candidats s'est propagé sur les réseaux sociaux, jetant un doute sur la sincérité du scrutin.
La menace est d'autant plus grande que 27 pays vont voter en même temps le 9 juin, multipliant les risques de déstabilisation.
Émilie Beaujard du service international de RTL. Des membres du gouvernement israélien bientôt visés par des mandats d'arrêt internationaux. Eh bien, c'est ce que redoutent des responsables de l'État hébreu, selon le journal américain le New York Times. Parmi les personnes potentiellement visées, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en personne. Selon 5 sources haut placées au New York Times, la Cour pénale internationale envisage de le poursuivre pour avoir empêché l'acheminement d'aide humanitaire à Gaza.
Le football, le Paris Saint-Germain, sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire.
Et oui, ça y est, fin du suspense grâce à la victoire de Lyon 3-2 sur Monaco au Groupama Stadium en 31e journée de Ligue 1 hier soir. Nicolas Georgerot, les Parisiens peuvent donc maintenant se concentrer sur leur objectif de triplé.
Oui, sacré alors qu'ils étaient chez eux, en famille, avec leurs proches. Les Parisiens se retrouvent ce matin pour la dernière séance d'entraînement avant de décoller pour Dortmund. Demain, c'est le 50e trophée dans l'histoire du club parisien. Le PSG en championnat n'a pas tremblé. Une défaite seulement jusqu'à présent et elle remonte au 15 septembre contre Nice. La concurrence était trop éparpillée cette saison. L'entraîneur parisien Luis Enrique évoque pourquoi pas un quadruplé inédit, trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions.
Sans aucun doute, c'est une motivation de faire quelque chose qui n'a jamais été fait en France. Marquer l'histoire du club On est motivé pour ça. Le chemin est long et sinueux. Il faudra être concentré pour atteindre nos objectifs.
Encore deux rencontres sans défaite en Ligue 1 et le Paris Saint-Germain battrait alors son record d'invincibilité qui est de 27 matchs. Et avec ce 12e sacre de champion de France, le PSG commence à creuser un écart avec le 2e au palmarès, l'AS Saint-Etienne et ses 10 titres.
Nicolas Jean-Giraud du service des sports de RTL. Les autres résultats, Brest s'est imposé 5-4 face à Rennes au terme d'un impressionnant derby breton. Marseille grimpe à la 7e place grâce à sa victoire 2-1 à domicile contre Lens. Lille a battu Metz 2-1. Toulouse s'est imposé là aussi 2-1 à Lorient et Clermont a écrasé Reims 4-1. Chez les filles, l'OL s'est qualifiée pour sa 11e finale de Ligue des Champions féminines en battant le PSG 2-1. Les Lyonnaises qui affronteront les Barcelonaises pour le titre.
Les courses, elles ont lieu à Chantilly. Départ, c'est très précis, à 13h55.
Et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 5, le 2, l'As, le 12, le 3, le 9, le 11. Et c'est ce 9, l'outsider de RTL, Pestacle.
Et ça va être un beau Pestacle. Merci beaucoup. À tout à l'heure, 7h30.
Tout à l'heure.
Rachel Sadodine, 6h10. Vos messages, Caroline, sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS également.
Oui, vous réagissez pas mal aux JO notamment. Patricia a beaucoup de doutes quant aux conditions de sécurité des futurs JO. Mimigo nous dira non, c'est trop d'argent dépensé pour du sport, c'est indécent. En revanche, il y en a quand même qui se manifestent. Il y a Denis qui nous dit, écoutez la Marseillaise et voir un athlète sur un podium, ça m'enchante. Aujourd'hui, je vais même acheter la mascotte pour la poser sur le tableau de bord de mon camion. Et il y a Hugues qui nous dit, les JO, c'est toujours énorme, que ce soit à Paris ou ailleurs.
La flamme olympique en route vers la France, est-ce que les Jeux vous donnent le moral? C'est notre question du jour. Vous dites non à 82%, oui à 10%. Vous votez toute la journée sur RTL.fr et l'appli RTL.
RTL Matin, le surf de l'info.
Et Cyprien, vous surfez ce matin avec le marathon des ponts, les ponts de mai qui démarrent cette semaine.
Et oui, c'est parti les amis, car mercredi...
On arrive au mois de mai, le meilleur mois de l'année.
Tu m'étonnes, car mai en France, c'est sacré.
Mai, où l'on fait ce qu'il nous plaît, est la période de l'année où tout semble être calculé pour que l'on s'arrête de travailler.
Et encore plus cette année, avec 4 jours fériés qui tombent tous en semaine. Alors... prenez des notes.
Il vous suffit de poser seulement 5 petits jours, les 2, 3, 6, 7 et 10. Au total, 17 jours off, plus de la moitié du mois.
Eh oui, par la magie des ponts et des week-ends, vous posez les 2, 3, 6, 7 et 10 mai et... à vous les vacances, 17 jours off. Et il y a un truc vraiment exceptionnel en plus cette année.
Là, c'est extraordinaire, mais bon...
De quoi ?
Il y a 2 jours fériés qui suivent.
Eh oui, l'armistice du mercredi 8 mai et l'ascension qui tombe le 9 mai cette année.
2 jours fériés la même semaine, c'est tout simplement exceptionnel. Ça n'arrive que 5 fois par siècle.
Ouais, donc autant en profiter à fond. Après, le problème des ponts, bah, c'est l'école. Car sachez-le...
En théorie, si un élève a 2 journées d'absence non justifiées dans le mois, les parents peuvent recevoir un avertissement et être convoqués, voire même être sanctionnés d'une amende de 135 euros.
Ah oui, ça calme, ça fait cher le pont. Mais en pratique, est-ce que ça arrive vraiment ?
Sur 2 journées d'absence, non.
Voilà, donc c'est bon !
Je suis ton jour férié, je suis sur les ponts du mois de mai.
En voiture sur les ponts du mois de mai. Et surtout, n'allez pas nous dire que la France...
C'est un pays qui ne travaille pas assez. La France est paresseuse.
Eh bien, faux. La preuve, niveau jour férié...
Avec ses 11 jours, la France est loin derrière la Colombie et l'Inde, premier ex aequo avec 18 jours fériés.
Voilà, et puis les jours fériés, bah ça peut rapporter gros.
Pour les professionnels du tourisme, un jour férié en semaine, c'est jusqu'à 3 milliards d'euros d'activité supplémentaires.
Et histoire d'en plus apprendre quelque chose grâce au jour férié, sachez-le.
Férié est issu du latin feria, qui signifie jour de fête à l'occasion duquel on ne travaille pas.
Alors vive la feria et vive le mois de mai bien sûr.
J'aime l'inférieur.
Merci beaucoup Cyprien, signé à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Le département de l'Aisne n'a plus d'argent, il risque une mise sous tutelle. Son président est notre invité. Restez avec nous sur RTL, il est 6h13.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
Au livre de poche, l'heure des femmes d'Adèle Bréau. Une fresque romanesque qui explore la destinée des femmes des années 60 à nos jours, à travers la vie de 4 héroïnes, dont celle de Ménie Grégoire.
Julien Courbet règle vos problèmes en direct sur RTL.
Il y aura d'énormes problèmes, mais il y aura d'énormes solutions, car le principe de l'émission, on vous l'a dit et répété, c'est quand vous avez un problème, nous téléphonons à la partie adverse et on tente la négociation et vous assistez à tout. Il y a aussi toutes les questions que vous posez aux spécialistes et l'incontournable journal des arnaques à 11h. Mais comment peut-on écouter autre chose à 9h? Rendez-vous en direct sur RTL.
Il n'y a pas d'âge pour apprécier un bon repas. Et choisir les menus services, c'est se simplifier la vie. Les menus services, le spécialiste du portage de repas à domicile qui s'adapte aux besoins des seniors. Les menus services livrent partout en France des repas variés, équilibrés, avec un large choix de produits de saison. Plus d'infos sur les-menus-services.com.
Bon, bah si je veux pouvoir réparer ma voiture, adieu petit week-end, resto et spa. Voilà.
Blondine, profitez de la vie et réparez votre voiture. Pendant les Oscars Odaise, Oscaro.com vous offre jusqu'à 70% de remise sur des milliers de pièces et produits.
Merci Oscaro.
Oscaro.com, la référence pour votre auto.
Voir conditions sur le site. Oscaro Days signifie les jours Oscaro.
RTL Matin, Jérôme Florent.
Avant d'accueillir notre invité, coup d'œil à votre journal de 6h30. On en parlait il y a quelques minutes. Le gouvernement va créer un véritable statut du repenti pour lutter contre le crime organisé. Annonce faite par le ministre Éric Dupond-Moretti. Il veut prendre pour modèle ce qui se fait en Italie pour lutter contre la mafia. En France, il y a eu quelques cas, dont celui de Claude Chaussat, le premier repenti corse, ancien membre du gang de la Brise de Mer. Et il vit aujourd'hui avec la crainte d'être assassiné.
J'ai un gilet pare-balles dont je me sers si je me méfie un petit peu d'un rendez-vous. Vous savez, mes filles, ça fait 7 ans que je suis remis en liberté sous contrôle judiciaire. En 7 ans, on a déménagé 8 fois.
Un témoignage RTL de 2019 à retrouver dans le journal de 6h30.
RTL. Les trois questions du petit matin.
Ils sont au cœur de votre quotidien. Ils financent les aides sociales comme le RSA, ils s'occupent des routes, ils s'occupent des collèges. Et pourtant, les départements sont dans le rouge et certains plus que d'autres, comme le vôtre. Nicolas Fricotto, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Vous êtes le président du conseil départemental de l'Aisne et vous appelez l'État à l'aide dans une lettre ouverte. C'est un moment grave, la survie de notre département est en jeu, écrivez-vous. Vous avez, c'est très rare, voté votre dernier budget en déséquilibre. Il vous manque 22,5 millions d'euros pour être à flot. Comment en êtes-vous arrivé là ?
Eh bien, tout simplement parce que les départements sont les collectivités donc des solidarités à la fois humaines et territoriales. Et les solidarités humaines, ce sont les allocations que nous versons aux personnes qui sont en difficulté ou alors pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. C'est aussi la protection de l'enfance. Et toutes ces dépenses dites sociales prennent une bonne partie de notre budget et nous n'avons pas des recettes qui augmentent en conséquence de l'augmentation de ces allocations. Pour l'année 2023, par exemple,
Ces prestations ont été transférées au département il y a une quinzaine d'années, je le précise.
Oui, exactement, et notamment le RSA, en 2009. Et donc ce transfert s'est fait avec des dotations qui correspondaient à la dépense de l'époque. Et les dépenses ont augmenté au fil des années sans que la compensation soit à la hauteur et à la mesure de l'augmentation des dépenses. Et donc nous nous trouvons aujourd'hui, par exemple en 2023, avec une augmentation de nos dépenses, mais alors qui concerne pas uniquement les allocations individuelles de solidarité, mais également les problématiques liées au coût de l'énergie, aux augmentations liées aux personnel lié à l'ensemble des prestations que nous versons. Et donc ces augmentations de dépenses ont augmenté de 37,5 millions de plus que l'augmentation de nos recettes. Parce que dans le même temps, nous avons des recettes sur lesquelles nous n'avons plus de levier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de levier fiscal. Nous avons des dotations qui viennent de l'État. Nous avons par exemple une dotation globale de fonctionnement. Et nous avons également une fraction de TVA nationale et ce qu'on appelle les droits de mutation. Et ces recettes sont...
Ce sont ces droits que vous touchez grâce aux achats immobiliers.
Sont les ventes, oui, voilà. Ce sont les droits de notaire, entre guillemets. Ouais. Mais en fait, des départements comme l'Aisne, et pourquoi sommes-nous les premiers en difficulté, mais d'autres, malheureusement, le sont déjà également. Vous savez, on peut évoquer le cas des Ardennes ou de la Seine-Saint-Denis.
Il y a l'Aube aussi.
Le problème, c'est que... L'Aube, enfin, on est quelques départements particulièrement en difficulté. Les autres vont avoir les mêmes difficultés dans les années qui viennent parce qu'en fait, le panier de recettes correspond absolument pas aux dépenses que nous sommes en situation d'assumer ou non pour l'État, en fait, à la place de l'État.
Donc aujourd'hui, vous n'avez plus de réserve, vous n'avez plus de marge de manœuvre.
Exactement, plus de marge de manœuvre. Nous utilisons les excédents reportés, donc il nous manque lorsque nous avons, et bien sûr à la place de nos recettes historiques comme le foncier bâti, une fraction de TVA, mais nous n'avons pas de levier fiscal. Et donc si nous avons une augmentation des dépenses qui est plus forte que celle de nos recettes, il n'y a pas de moyen de rétablir finalement l'équilibre.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez concrètement?
En fait, moi, je demande concrètement, bien sûr, une aide exceptionnelle pour 2024. Mais la difficulté, alors 22,5 millions, mais la difficulté, elle est structurelle. Donc, il faut absolument qu'il y ait une évolution du panier de recettes des départements. Et c'est ce que souhaite, je pense, le président de la République à travers la mission qu'il a confiée à Éric Woerth, c'est-à-dire clarifier les compétences des collectivités, mais également leur donner des recettes qui correspondent à ce que l'État attend d'eux, en fait.
Donc, Nicolas Fruicchiotto, vous demandez 22,5 millions d'euros à l'État. Et si vous n'avez pas ces 22,5 millions d'euros, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, si vous voulez, évidemment, nous avons fait cela en concertation, en prévenant Monsieur le Préfet, qui va donc saisir la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes aura un mois pour nous faire des propositions pour équilibrer le budget, puisque cette recette que nous avons votée, elle est virtuelle, elle n'est pas réelle. Et donc, si la Chambre régionale des comptes nous fait des propositions et que nous les approuvons, nous allons redélibérer le 24 juin prochain, logiquement. Soit nous approuvons cette proposition de la Chambre régionale des comptes, soit nous ne l'approuvons pas, et si effectivement nous n'approuvons pas, c'est le préfet qui prendra la main. Bon, j'espère, nous n'en arriverons pas là, en fait.
Ça veut dire mise sous tutelle.
C'est que... Oui, voilà, c'est une mise sous tutelle. Mais nous n'arriverons pas là, enfin, je ne pense pas. Ce qui est important, c'est que nous sommes à un moment charnière, puisque Éric Woerth doit faire ses propositions au président de la République, et nous, ce qui nous semble important, c'est qu'il y ait une réflexion en profondeur sur cet équilibre que nous devons rechercher, et ces recettes qui doivent correspondre aux dépenses transférées, aux politiques que nous menons à la place de l'État, notamment en termes de solidarité humaine.
Enfin, vous demandez concrètement à l'État de reprendre à sa charge un certain nombre de prestations sociales.
Pas forcément. Nous, ce que nous demandons, c'est d'avoir l'équivalent. Alors, les allocations individuelles de solidarité, par exemple, pour le RSA. Lorsque l'État souhaite augmenter la prestation de 4,6%, moi, je le comprends. Hein, on vit très peu, très mal avec plus de 600 000 euros. Mais c'est un chèque finalement qu'il fait avec notre chéquier d'environ 5 millions d'euros pour le département de l'Aisne. Et nous n'avons pas en face la recette. Donc, en fait, qu'il faut qu'il y ait vraiment une évolution du panier de recettes, avec une dotation peut-être globale de sociale qui nous serait versée en fonction de critères sociaux, et peut-être aussi des fractions de fiscalité nationale sur lesquelles nous pourrions avoir éventuellement un pouvoir de taux, mais pas pour régler les défenses sociales, parce que sinon c'est la pauvreté qui va payer pour la pauvreté. C'est ce qui s'est passé dans les années passées avec le foncier bâti, que nous avons augmenté considérablement dans l'Aisne pour faire face aux dépenses sociales qui sont très élevées.
En tout cas, une réflexion est en cours, et vous l'avez bien dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas Fruicchiotto, président du conseil départemental de l'Aisne. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. Bien. Bonne journée.
Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
Et bonjour Bernard Lehu.
Bonjour à tous.
On va parler d'un événement au rayon livre de poche avec la sortie du dernier roman de Pierre Lemaitre.
Et ça s'appelle Le silence et la colère, suite de sa fresque du XXe siècle qui nous transporte dans la France du tout début des Trente Glorieuses. C'est passionnant, comme toujours, avec Pierre Lemaitre, le bien nommé.
A tout de suite sur RTL.
Réveillez-vous
avec Jérôme Florin sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, jour J.
On dit d'elle qu'elle est l'application qui rembête nos enfants et nos adolescents. Ses utilisateurs sont scotchés sans voir le temps passer, devant des vidéos souvent sans intérêt. Mais cet algorithme peut aussi avoir des effets dévastateurs sur la santé mentale des adolescents. Avalanche de vidéos d'automutilation, incitation au suicide, certains d'entre eux passent à l'acte. Le danger TikTok, c'est ce soir à 20h dans jour J.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Laissez-vous tenter, première.
Avec donc cette nouveauté attendue côté livre de poche, Bernard Lehu, avec la parution du dernier roman de Pierre Lemaitre, Le silence et la colère.
C'est la suite de sa fresque sur le XXe siècle, entamée avec son prix Goncourt Au revoir là-haut. Alors après nous avoir raconté l'entre-deux-guerres, Pierre Lemaitre parcourt les 30 glorieuses, 600 pages dans Le silence et la colère, qu'on dévore d'une traite. Nous sommes en 1952 et la part belle est faite ici aux femmes, en particulier le personnage principal, Hélène, jeune journaliste. Elle est enceinte, un enfant qu'elle ne veut pas garder, dans une société où l'avortement est encore hors la loi, Pierre Lemaitre.
C'est une jeune fille qui est enceinte et qui cherche sa liberté. Elle ne veut pas de cet enfant, mais on est dans une situation extraordinairement compliquée par rapport à cela. Savez-vous, par exemple, que dans les années 60, on poursuit plus de personnes que dans les années 30? Ça veut dire que cette période qu'on estime être une période assez lumineuse, les 30 glorieuses, l'ascenseur social, tout va mieux pour la plupart des gens, c'est une période dans laquelle les femmes souffrent beaucoup. Vraiment, on est dans une guerre contre l'avortement et d'une certaine manière, on est dans une guerre contre les femmes. Il faut comprendre que cette période-là est une période de domination masculine sans partage.
Et quelle intrigue déploie Pierre Lemaitre dans Le silence et la colère ?
Eh bien, Hélène, la jeune journaliste, part en reportage dans un village qui va être englouti par la construction d'un barrage.
Je voulais traiter du béton. Au fond, ces années-là sont les années de la construction du périphérique à Paris, c'est la création des villes nouvelles. On bétonne énormément pendant toutes les Trente Glorieuses. Donc, je cherchais comment illustrer cette question du béton. Au fond, au nom du bien commun, il va falloir qu'il y ait des sacrifiés. Alors, on essaie de prendre toutes les précautions pour que le sacrifice soit le moins cruel possible. Il n'empêche quand même que ça fait des sacrifiés. Et moi, je trouvais intéressant dans ces années, qui sont des années extrêmement généreuses, où on va vendre, acheter, etc., de le voir du côté des proscrits.
Et alors, Pierre Lemaitre a l'art de peupler ses romans de sacrés personnages. Est-ce que c'est encore le cas, Bernard ?
Ah bah évidemment, et j'en retiens un en particulier, Détouche, c'est l'ingénieur du barrage, dont on découvrira qu'il a une revanche à prendre sur son passé. C'est un type de personnage fréquent dans l'œuvre de Pierre Lemaitre, parce qu'il s'en sent proche.
Je n'ai pas réussi mes études, je suis un autodidacte, j'ai souffert de la douleur de l'autodidacte, et je continue aujourd'hui à essayer de me réhabiliter. Et d'une certaine manière, c'est une revanche sociale. La réussite que j'ai aujourd'hui en tant que romancier illustre d'une certaine manière la volonté que j'ai eue, au fond, de réussir malgré les échecs primordiaux. J'aime pas l'idée de rédemption, mais en tout cas, il y a l'idée de renverser le cours d'une histoire qui semblait écrite.
Le silence et la colère, le dernier roman de Pierre Lemaitre, est l'un des grands succès de 2023, est désormais disponible au livre de poche.
Bernard Lehu. Merci Bernard.
Laissez-vous tenter, première.
Un extrait de vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h sur RTL, avec une histoire de Boudère.
C'est une dame qui embrasse son mec, elle lui dit, tu sais... Eric, quand je suis avec toi, j'oublie tout. Il dit, mais je m'appelle Marc. Il dit, bah, tu vois.
Excellent. Et aujourd'hui, vous retrouvez vos grosses têtes à partir de 15h30 pour une émission spéciale depuis Montluçon, une émission en partenariat avec le quotidien La Montagne. Caroline, toujours pas de printemps en vue.
De grand soleil et d'été.
Non.
Pas pour tout de suite. Non. Ce matin, l'ouest et le nord se lèvent, c'est vrai, sous de belles éclaircies. En revanche, la journée sera pluvieuse du sud de l'Aquitaine et l'Occitanie jusqu'à la Bourgogne. De part et d'autre de cet axe, c'est la grisaille qui domine. On attend quelques ondées plus faibles, du Limousin et du Berry à la Champagne-Ardenne et des Alpes du Nord jusqu'aux frontières allemandes. Dans le quart nord-ouest, la journée sera plus ensoleillée. En revanche, dès la fin d'après-midi, une nouvelle perturbation va faire son entrée par la Bretagne pour nous apporter de la pluie dès demain. Dans la matinée, les températures, on attend 7 à Rennes, 9 à Limoges ou à Cherbourg, 10 pour Lille ou pour Nantes, 12 à Brest, Paris, Strasbourg ou Lyon, 13 à Biarritz ou à Marseille et déjà avant midi, 19 degrés à Lombres, à Nice ou à Bastia. Et dans l'après-midi, les températures vont baisser là où il pleut. Il fera 14 degrés à Camaret-sur-Mer, à Tarbes ou à Saint-Étienne, mais il fera 17 degrés à Rennes ou à Amiens où ça se réchauffe, 18 à Dunkerque ou à Paris, 20 pour Colmar ou pour Aix-en-Provence et donc 26 degrés toujours en Corse qui attend désespérément le retour de Tom.
Donc il fait un temps radieux en Corse où Tom Lefebvre a passé sa semaine de vacances la semaine dernière où il faisait un temps pourri.
Exactement. Donc, c'est vous mon soleil, ça va.
Oh, comme c'est mignon. Écoutez ça. Et si on se faisait un peu de neige au Sahara, la chanson d'Angoune qui fête ses 50 ans aujourd'hui.
C'est la
ta lune, ton repère, c'est un peu ce que vous êtes pour Tom, finalement, Caroline, non?
C'est magnifique.
C'est beau, cette histoire naissante.
Ouais. Ouais. Sous vos yeux, Florian.
Oui.
Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, donc, et vous, Caroline, bonjour à tous.
Bonjour.
Un point, c'est tout, Alba. Il y a un coup de gueule ce matin contre Sciences Po.
Bah oui, l'école de l'élite qui a complètement perdu le cap.
Caroline, point commun entre l'Indre-et-Loire, les États-Unis et même la Chine. Tous ces territoires ont été touchés ce week-end par des tornades.
Effectivement.
Pas de la même intensité, évidemment.
Non, et heureusement d'ailleurs, on en reparle tout de suite.
Martial, les travailleurs invisibles à l'honneur.
Oui, est-ce que vous vous souvenez de cette expression d'Omar Sy dans Lupin, la série Netflix?
Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Comme eux, ils ne regardent pas. C'est qu'ils sont tout en haut. Comme nous, on est tout en bas. Ils ne regardent pas.
Voilà, les invisibles, alors ils sont caristes, infirmières, aides-soignantes, institutrices, livreurs à vélo. Ils sont 11 millions en France et on ne les voit pas.
Florian, les pourquoi de l'info ce matin?
Ce week-end, c'était la fin des rencontres internationales du cerf-volant à Berck, un événement mondial. Les Français sont devenus champions du monde en plus de cerf-volant acrobatique. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi un cerf-volant, ça porte ce nom étrange finalement. Pourquoi ça s'appelle comme ça?
Jusqu'à 1 million de visiteurs à Berck ces derniers jours, c'est phénoménal. Vous écoutez RTL, il est 6h30.
Jérôme Florin,
RTL Matin.
Et on accueille Olivier Bois pour le journal. Bonjour Olivier.
Bonjour Jérôme, bonjour Caroline, bonjour à tous.
À la une ce matin, le gouvernement qui veut un vrai statut de repenti.
Oui, pour ceux qui balancent dans les affaires criminelles sur le modèle de ce que font les Italiens, protection, changement d'identité, pour le moment c'est très peu utilisé en France. Dans ce journal également, Emmanuel Macron critiqué après avoir évoqué l'idée de partager l'arme nucléaire française avec les alliés européens. Une infirmière pour 76 patients, les personnels d'un hôpital du Tarn n'y arrivent plus et sont en grève. Et puis une histoire assez incroyable de Resto Basket. Une famille galloise qui laisse le petit dernier à la caisse après être parti sans payer.
RTL Matin.
Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, veut réformer donc la justice pour lutter contre les mafias du trafic de drogue, essentiellement. Et pour cela, sur le modèle italien, il veut créer un vrai statut du repenti qui permet donc d'offrir à un criminel qui se repent et qui balance la possibilité de refaire sa vie, protégée avec sa famille, avec parfois une nouvelle identité. Aujourd'hui, c'est très peu utilisé en France. La loi du silence reste donc la règle. Et on comprend mieux pourquoi, quand on écoute le témoignage de Claude Chaussat, ancien membre du gang corse de la Brise de Mer, qui avait parlé à la justice. Cindy Hubert l'avait rencontré en 2019, juste avant son procès.
Je donne des noms, je donne des adresses, je donne des comptes bancaires, je donne un système, je donne des réseaux de blanchiment, je donne le fonctionnement des cercles de jeux parisiens qui étaient à l'époque la machine à cash de cette mafia. Je leur permets de décrypter un système dans lequel ils étaient dans le flou depuis des années. Énormément d'inquiétude pour ma famille qui peut se retrouver seule du jour au lendemain. Je prends énormément de précautions pour que mon domicile reste le plus secret possible. Voilà, c'est à tous les instants. Je vis en exil. Vous savez, mes filles, ça fait 7 ans que je suis remis en liberté sous contrôle judiciaire. En 7 ans, on a déménagé 8 fois. J'ai un gilet pare-balles dont je me sers si je me méfie un petit peu d'un rendez-vous. Quand on part en vacances, on essaye, oui, de réserver à d'autres noms. Mais bon, on reste aussi vigilant parce que, bon, vous savez, des fois, cette mafia a tellement les yeux partout et les oreilles partout que...
Voilà le témoignage de Claude Chaussat qui n'avait pas bénéficié précisément du statut de repenti parce que la loi n'existait pas. Et à 7h45 tout à l'heure, Fabrice Risoli, spécialiste des repentis et de la grande criminalité, sera l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL.
À Montpellier, on attend les conclusions de l'enquête administrative après l'agression de Samara.
Oui, il y a un mois presque, elle avait été rouée de coups devant son collège au point de tomber dans le coma avant de voir son état de santé physique en tout cas s'améliorer. 3 mineurs sont mis en examen dans cette affaire. On a évoqué comme motif du harcèlement sur les réseaux sociaux, avec la question également de savoir si le collège avait été assez vigilant. Les inspecteurs ont fini vendredi, en l'occurrence, une enquête administrative de 15 jours, Nerissa Emani.
Oui, les inspecteurs ont interrogé plus d'une vingtaine de personnes dans l'établissement, ainsi que la mère de Samara. Objectif, comprendre les circonstances du passage à tabac de la jeune fille. Selon les premières conclusions de l'enquête, des photomontages humiliants publiés sur les réseaux sociaux seraient à l'origine des violences. D'ailleurs, l'établissement connaissait les situations conflictuelles entre les élèves concernés et les suivait de près. Pour Maître Galix, avocat de la mère de Samara, le harcèlement dont a été victime la collégienne doit apparaître clairement dans le rapport, mais pas seulement.
Il est important ce rapport pour montrer les défaillances de certaines personnes du collège qui ont laissé sortir la petite Samara alors qu'elle savait qu'elle était menacée par d'autres collégiens.
Un point que réfute le personnel du collège. En grève lundi dernier, les professeurs se sont dit indignés par les accusations diffamatoires véhiculées par la famille de Samara. En attendant les dernières conclusions de l'enquête, 5 adolescents sont mis en examen dans l'affaire pour tentative d'homicide volontaire sur mineur de 15 ans. 2 ont déjà reconnu avoir frappé Samara.
Reportage de Nerissa Emani. À retenir en bref notre sondage BVA X-Side pour RTL sur les européennes. Les Français s'y intéressent de plus en plus, en tout cas 77% des inscrits désormais sur les listes électorales connaissent la date, le 9 juin, c'est 9 points de plus qu'il y a un mois. Et sur les intentions de vote, pas de changement, le RN reste largement en tête, 31%, devant Renaissance 17% et la liste PS Place Publique à 13%. Information RTL ce matin de Stéphane Boutsock. Omar Sy, qu'on recevait sur RTL vendredi, sera membre du jury du prochain festival de Cannes, tout comme l'actrice Eva Green, mythique James Bond girl, notamment dans Casino Royale. Et puis à Lyon, trafic ferroviaire interrompu entre Givors et Lyon-Perrache. Il y a eu un petit éboulement hier soir. Un train est sorti des voies en restant debout et à cause des intempéries, puisqu'il est tombé un mois de pluie en quelques heures sur la région de Lyon.
Il n'y arrive plus, les personnels d'un hôpital du Tarn sont en grève.
Oui, le centre hospitalier de Lavaur, médecins, infirmiers, aides-soignants dénoncent une situation absolument intenable. Par exemple, ce chiffre qui il cite une infirmière certains matins pour 76 patients. Reportage de Patrick Tégéro.
L'établissement est endetté, en redressement. Alors c'est la course à l'économie. Virginie est infirmière et porte-parole de l'intersyndicale.
Dès qu'il manque dans un service, ils vont chercher à côté, ils désorganisent le service d'à côté, ils font plus appel à l'extérieur. Des gens peuvent être en arrêt plusieurs mois, ils sont pas remplacés.
Béatrice est aide-soignante à l'EHPAD.
Une infirmière pour 76 résidents. Comment voulez-vous que le matin, elle puisse distribuer ses médicaments? On a du mal à finir nos toilettes parce qu'au début, on a fait autre chose que nos toilettes. Faire manger nos résidents.
Le docteur Bozonella dirige une unité en psychiatrie.
On a 2 infirmiers pour gérer 19 patients, dont la moitié peuvent présenter des idées suicidaires. Quand les patients ont des crises en même temps, et c'est vraiment très, très, très compliqué. C'est parfaitement dangereux.
Infirmier, Jérôme est en grève pour les patients.
Les revendications du mouvement de grève actuel, c'est pas une augmentation de salaire, c'est pas des effectifs dénués de toute responsabilité. Nous, ce qu'on demande, c'est le maintien des effectifs actuels.
La direction reconnaît seulement quelques difficultés de recrutement et elle recevra l'intersyndicale mardi.
Reportage de Patrick Tégéro dans le Tarn pour RTL.
Il est 6h36 sur RTL. Emmanuel Macron veut-il partager l'arme nucléaire? En tout cas, l'opposition monte au créneau.
Oui, dans la foulée de son discours de jeudi sur la défense européenne, le président, dans une interview ce week-end, a donné des précisions et il ne ferme pas la porte à cette idée que la puissance nucléaire française pourrait servir à l'échelle d'une menace européenne, Émilie Beaujard.
Oui, Emmanuel Macron propose de tout mettre sur la table pour organiser la défense européenne. En d'autres termes, le parapluie qui pourrait protéger le ciel des 27 en cas d'attaque. Le président évoque la défense antimissile, les armes de longue portée et l'arme nucléaire que la France est aujourd'hui la seule nation européenne à détenir. La doctrine française est la suivante. L'arme nucléaire peut être utilisée si les intérêts vitaux de la France sont menacés. L'idée serait donc d'étendre cette doctrine aux intérêts vitaux de l'Europe. Là-dessus, l'opposition a tout de suite réagi. Pour certains, c'est une ligne rouge qu'on ne peut franchir. Pour d'autres, c'est un abandon de notre souveraineté. Mais la construction de l'Europe de la défense est un objectif affiché par Emmanuel Macron depuis plusieurs années. La guerre en Ukraine a montré aux 27 pays membres qu'il était nécessaire de bâtir leur autonomie stratégique et encore plus si Donald Trump revient au pouvoir aux États-Unis l'année prochaine.
Merci Émilie Beaujard. À retenir à l'étranger, le Hamas qui doit donner aujourd'hui sa réponse sur une proposition égyptienne de trêve avec Israël. Un responsable du mouvement palestinien cité par l'AFP indique n'avoir relevé, je cite, aucun problème majeur, mais on attend l'issue officielle et rien n'a filtré sur les modalités de cet éventuel accord. Et puis en Espagne, c'est aujourd'hui aujourd'hui également que le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez doit dire s'il démissionne ou pas. Sa femme est mise en cause dans une affaire de prise illégale d'intérêt et il dénonce, lui, un règlement de compte politique orchestré par l'extrême droite.
On va parler maintenant de cette manière risquée de ne pas payer le restaurant.
Oui, interdite surtout, Jérôme. Le resto basket, donc vous mangez et vous courez. Une vidéo fait le buzz au Pays de Galles, 12 millions de vues, puisqu'une famille a tenté le coup et pour ne pas éveiller les soupçons, elle avait laissé le petit dernier à la caisse, à lui après de se débrouiller pour partir. Sidonie Gaucher.
Ce dine and dash, comme on dit en anglais, s'est déroulé dans un restaurant italien qui venait d'ouvrir sur le littoral gallois. Au moment de payer l'addition de 370 euros, la famille sort et la mère se dirige vers le comptoir, mais sa carte est refusée. Elle laisse alors son enfant sur place comme gage de sécurité et promet de revenir avec une autre carte. Mais personne ne revient. L'enfant se sauve en courant dans la foulée. Le restaurateur confie qu'il avait commencé à avoir des doutes quand la famille qui avait commandé les plats les plus chers du menu les renvoyait en cuisine à moitié entamés. Lorsqu'il raconte l'histoire sur les réseaux sociaux, d'autres restaurateurs affirment avoir vécu une situation similaire pour un montant total qui dépasse les 1200 euros. Au lendemain de la publication, la pizzeria fait salle comble dans un élan de solidarité. Une enquête est en cours et les parents comparaîtront devant la justice pour vol et fraude le 8 mai prochain.
Voilà, explication de Sidonie Gaucher au Royaume-Uni pour RTL.
Le foot, cette fois, c'est fait. Hein, le PSG est champion.
Oui, puisque Monaco 2e a perdu à Lyon 3-2. Brest a battu Rennes après un match incroyable. 5-4, score final. Ils étaient menés 2-0 au bout de 9 minutes. Et Brest est assuré désormais d'être européen, au moins en Ligue Europe Conférence. Et puis Marseille a battu Lens 2-1.
Et puis coup de chapeau aux Lyonnaises
qui se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions en battant le PSG 2-1 hier au Parc des Princes. Wendy Renard, la capitaine, va disputer sa 11e finale de Ligue des Champions.
Ah, je compte pas, vous allez compter pour moi.
Si je crois que c'est ça.
C'est ça ouais. Bah, ça démontre une certaine régularité, tout simplement. Voilà, on a toujours soif de trophées. Après, je l'ai dit, les titres sont pas faciles à aller chercher. Les gens pensent que c'est facile, mais on a vu encore sous cette double confrontation. Mais nous, on a fait preuve, encore une fois, aujourd'hui, de rigueur. Très contente pour le collectif. Et on a fait preuve de courage aujourd'hui, donc c'est bien.
Voilà, Wendy Renard au micro de Baptiste Durieux. Et la finale, ce sera le 25 mai à Bilbao contre le FC Barcelone.
Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à 8h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. C'est notre question du jour ce matin. La flamme olympique en route vers la France. Est-ce que les Jeux vous donnent le moral? Vous dites non à 82%. C'est très clair. Vous dites oui quand même à 10%. Beaucoup de messages, Caroline.
Oui, Jo veut la facture. Elle veut savoir combien ça va coûter en totalité en termes de sécurité, de transport, comparé à ce que ça va rapporter réellement. Il y a effectivement Bruno qui dit non, ça ne me donne pas le moral parce que c'est le contribuable qui va payer. Pascal nous dit qu'elle s'en fiche complet, qu'elle ne voit pas l'intérêt de regarder du sport à la télé, qu'elle préfère le pratiquer, elle. Et sinon, il y a Aude Emmanuel. Elle est positive, elle se réjouit, ça va être génial, nous dit-elle. Elle a eu la chance de participer au JO d'Albertville. C'est un super moment de communion entre tous. Il faut le vivre pour y croire. Vive les JO, termine-t-elle. Mais c'est Jean-Vincent qui va conclure cette question pour lui. C'est vous, Jérôme, qui remontait le moral de bon matin.
Ah bon ?
Pas les JO.
Il va un peu fort quand même, non, Jean-Vincent ?
Les petits matins sur RTL, c'est médaillé d'or.
Bon, on prend ces cadeaux. Un détour par le répondeur RTL. Il y a beaucoup de réactions depuis le fin mot de l'histoire dans l'affaire Kenji Girac. Le chanteur a voulu simuler un suicide après un différend avec sa compagne. C'est ce qu'a révélé le procureur de Mont-de-Marsan. Écoutez les messages de Sylvie des Côtes d'Armor.
Maintenant, c'est point à la ligne, on n'en parle plus. Je vois pas pourquoi on est en train de faire une polémique. Alors moi, j'adore Kenji Girac, et c'est pas parce qu'il a essayé de se suicider qu'il y a eu quelque chose avec les gens du voyage et tout, que j'achèterai pas ses prochains disques. Évidemment, je vais continuer à l'écouter. C'est un homme qui est très bien, qui est très simple.
Le répondeur du 3210 pour tous vos messages ou via l'application RTL et sur le site rtl.fr. Vous allez dans Intervenez, prochain rendez-vous. Pour vous exprimer en direct sur l'info, c'est à 13h. Dans les auditeurs ont la parole. Dans la tablée du petit matin, on va parler entre autres du retour en quelque sorte des invisibles, Martial.
Voilà, les invisibles, ceux qu'on applaudissait pendant le Covid à 20h, ils sont retombés dans l'anonymat. C'est bien triste.
6h42.
RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados. En collaboration avec MSD.
RTL.
Karine, c'est qui ton mec en ce moment?
J'en ai pas.
Comment ça? Bah, tu fais une émission sur ça et t'es célibataire?
Les coordonnées.
C'est plus crédible ton truc.
T'as raison, Stomy. Franchement, c'est pas normal que vous trouviez des nanas aux mecs ou des mecs aux nanas et que vous vous en trouviez pas.
Bah, je pourrais, en fait.
Oh, je suis pas sûre.
Les grosses têtes, c'est tous les jours de 15h30 à 18h. Et retrouvez tout à l'heure l'émission spéciale des grosses têtes depuis Montluçon.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, hein, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand?
Désolé, le mouton à cinq pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça chipote pas là.
Ça chipote pas là où?
Chez Lidl, en ce moment, les 6 chipolatas sont à 2,49€ les 330 grammes au lieu de 3,49€, moins 28%.
2,49€ les 6 chipolatas.
Et c'est du porc français, hein.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 7,55€ le kilo, transformé en France, offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Jérôme Florin, RTL Matin.
Et on va y revenir dans le journal de 7h, cette info RTL, un nouveau carburant en préparation. C'est un carburant qui sera 100% renouvelable. Ce carburant est basé sur l'E85 actuel et que l'on trouve déjà dans les stations-service à 90 centimes d'euros le litre. Aujourd'hui, il se compose à 85% d'éthanol, issu notamment de maïs, de betterave et 15% de pétrole. Nicolas Courskouglou est responsable de la filière Bioéthanol France.
Tout simplement, en fait, on enlève la partie d'essence classique fossile dans le E85 et on le remplace par 15% de carburant renouvelable. À la fin, on a un E85 qui vient à 100% de la biomasse.
Tous les détails dans le journal de 7h sur RTL.
RTL Matin.
Merci d'être avec nous ce matin. C'est votre tablé du petit matin avec Caroline Chimot, Martial You, Florian Gazan et vous, Alba Ventura. Un point, c'est tout. Ce matin, c'est la direction de Sciences Po qui est dans votre viseur.
Bah, cette école prend l'eau de toutes parts. Elle est complètement à la dérive, gangrénée par le wokisme, victime de l'entrisme des insoumis, incapable d'avoir une ligne de fermeté, incapable d'avoir un peu de dignité. J'ai l'impression que la direction de Sciences Po a peur. Mais peur de quoi? De 200 révolutionnaires en culottes courtes flanqués de 4 mélanchonistes? À Sciences Po, il y a 15 000 étudiants et on se couche devant 200 d'entre eux. Écoutez, depuis plus d'un mois et demi, on les a laissés installer un blocus, on les a laissés proférer des idéologies antisémites, des slogans appelant à la disparition d'Israël, on les a laissés refuser une étudiante à l'entrée d'un amphi parce qu'elle est juive, on les a laissés rebaptiser un amphi Gaza, on les a laissés installer des tentes dans la cour, bloquer le couloir de la direction. Et le pire, là, c'est qu'on négocie encore pour obtenir le retour au calme. Toutes les poursuites prises à l'encontre des étudiants activistes sont suspendues et promis, il y aura un débat et toutes les questions pourront être posées. C'est ça en substance le communiqué de la direction de vendredi. Mais quelle honte ! La direction de Sciences Po aurait dû rappeler depuis bien longtemps à ses étudiants que l'on peut débattre, mais que toute prise de force vous conduit à l'exclusion. Elle aurait surtout dû rappeler à ces étudiants-là que ça ne demande pas un niveau d'études exceptionnel d'être capable à la fois de dénoncer l'attentat sanglant du Hamas le 7 octobre et de trouver indigne ce qu'a fait le gouvernement israélien. Quand on dirige une institution telle que Sciences Po, en théorie donc école de l'élite, il faut avoir une colonne vertébrale, pas être un paillasson.
Un point, c'est tout. C'est signé Alba Ventura, 6h47. Caroline, vous l'avez peut-être expérimenté directement ce week-end. Il y a eu une tornade samedi en Indre-et-Loire.
Effectivement.
Et il y a même eu une autre tornade près d'Angers en fin de journée. Deux tornades dans la même journée en France, ça arrive pas souvent. Il y a eu d'autres tornades beaucoup plus graves en revanche en Chine ou aux États-Unis où là il y a eu des victimes. L'occasion de revenir avec vous sur ce phénomène météo, Caroline.
Et ben d'abord, on va faire un point sur la définition d'une tornade. Alors pour simplifier, on parle d'un tourbillon de vent qui sort d'un cumulonimbus qui a la forme d'un entonnoir et dont la pointe est tournée vers la surface terrestre. Quand elle touche le sol, cette colonne de vent violent balaye et soulève tout sur son passage. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on appelle cette excroissance bouillonnante qui finit par contenir tout ce qu'elle entraîne sur son passage? Autant la condensation, la poussière, les débris et dans le pire des cas, les arbres ou les toitures arrachées. Est-ce que vous savez quel nom cela porte?
Non.
Eh bien, Florian. Ça s'appelle le buisson de trombe.
Le nom est aussi joli que le phénomène est à éviter. On est d'accord.
On a pu observer des tornades ce week-end qui ont eu des conséquences désastreuses dans le sud de la Chine. Notamment.
Avec des vents à près de 300 km/h, une tornade a tout balayé sur son passage et a particulièrement touché la ville de Canton dans la province de Guangdong. Arbres déracinés, véhicules emportés, maisons effondrées, un bilan matériel désastreux, un bilan humain terrible, au moins 5 morts et des dizaines de blessés. Et ce, juste une semaine après les inondations terribles qui viennent de ravager la région. La Chine connaît le phénomène des tornades, moins que les États-Unis et le Canada, mais ce qui est préoccupant, c'est que ce genre de tornade intervient habituellement à la fin de l'été, beaucoup moins au printemps.
Et aux États-Unis aussi, ce week-end, on a vu beaucoup de tornades.
Pas moins de 78 tornades ont été observées dans l'Iowa et le Nebraska vendredi, et 35 autres ont sévi entre le nord du Texas et le Missouri. On sait que c'est une zone très exposée aux tornades, plus que la France, mais une telle succession de tornades en si peu de temps sur un secteur si ramassé préoccupe les météorologues américains. Au moins 2 personnes ont été tuées samedi soir. Le gouverneur de l'Oklahoma a déclaré l'état d'urgence pour 30 jours. Il faut désormais reconstruire et déblayer des villes entières.
Et alors, dans la Creuse, le mois dernier, donc chez nous, on a vu une tornade qui, heureusement, n'avait fait aucun blessé, mais avait ravagé plusieurs communes. C'est courant en France, les tornades ?
En moyenne, 40 à 50 tornades se produisent en France chaque année. La majeure partie ont des intensités très faibles. Les zones dans lesquelles le risque est le plus élevé sont le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, le Calvados, la Charente-Maritime, l'Hérault et le Var. Mais pas plus tard que ce samedi, vous le disiez Jérôme, on a aussi observé une tornade en Indre-et-Loire. 3 chasseurs d'orage ont même confirmé le passage d'une tornade à Mazières de Touraine, au nord-est de Tours. Et en fin d'après-midi, une autre tornade a surpris près d'Angers les habitants de Verrières-en-Anjou. Heureusement, dans les deux cas, le bilan n'est que matériel.
Merci beaucoup, Caroline.
RTL, vivre ensemble.
Toute l'actu économique avec Préfonds. Retraite, prévoyance et épargne de la fonction publique. Rendez-vous sur préfonds.fr. Préfonds, le référent depuis 60 ans.
L'Éco à New avec vous, Marcia Liu. Focus donc ce matin sur ce qu'on appelle les invisibles, avec une vaste étude menée pendant 2 ans auprès de 4000 personnes par l'association Travailler Autrement. Les invisibles, ce sont les travailleurs qu'on applaudissait pendant le Covid à 20h et qu'on a un peu oublié depuis, c'est ça ?
Oui, on les appelait les essentiels, les premiers de corvée. Alors, caissière de supermarché, infirmière, aide-soignante, institutrice, livreur à vélo, VTC, cariste dans les entrepôts. Ils sont 11 millions dans la population, 11 sur 30 millions de travailleurs en France, ça veut dire un salarié sur 3. Et justement, est-ce que vous savez quelle est la proportion d'employés qui ne peuvent pas télétravailler dans ce pays en France ?
Un tiers,
25. Et ben voilà, un tiers. 1 sur 3. Ce qui signifie donc que quasiment 100% de ces invisibles exercent un métier non télétravaillable.
Mal payé.
Aussi, entre 900 et 2000 euros. Alors, c'est un des problèmes, mais c'est loin d'être le seul. Vous allez le voir, parce qu'en fait, la vie d'un invisible, c'est une vie de contrainte. Officiellement, ceux qui exercent ces métiers travaillent 10% moins longtemps que les autres. Mais c'est un chiffre en trompe-l'œil parce que ces professions ont des journées gruyères, des trous qui ne sont pas comptabilisés, mais qui allongent les journées, des heures de pause imposées, des temps de parcours entre deux rendez-vous, un service en restauration avec des plages entières sans travail, mais où vous ne pouvez pas rentrer chez vous parce que vous habitez trop loin.
Et la voiture est indispensable.
Ce qui fait qu'ils ont subi effectivement de plein fouet la dernière crise avec la hausse des prix des carburants. Les invisibles habitent loin de leur travail parce que l'immobilier est moins cher. Ils dépensent plus que les autres dans les transports et plus de la moitié ne font jamais un plein complet pour étaler les frais d'essence. C'est une vie qui stagne, puisque la moitié d'entre eux vivent à moins de 50 km de l'endroit où ils sont nés.
On imagine que c'est beaucoup de femmes seules ?
Oui, alors on l'a dit au moment des émeutes, bien sûr. Le nombre de familles monoparentales a doublé en 30 ans, une famille sur 4, mais 8 fois sur 10, c'est une femme seule. Et c'est une fracture sociale que nous n'avons pas su gérer, selon l'auteur de cette étude, Patrick Lévy-Wetz, de la fondation Travailler Autrement, que l'on retrouve d'ailleurs dans le podcast Tout savoir sur les invisibles sur RTL.fr.
82% de ces familles monoparentales, ce sont des femmes à charge d'enfants. Vous avez une crise en profondeur de la société avec la question éducative, la question du rôle des pères, la question des enfants seuls, des horaires de vacances, le moindre pépin. Quand vous êtes caissière, vous ne pouvez pas traiter le problème de votre enfant. Et qu'évidemment, à un moment donné, ça craque.
Martial, est-ce que ça peut dégénérer en révolte façon gilets jaunes ?
Les gilets jaunes étaient des invisibles précisément. Problème de prix du carburant, de manque de reconnaissance. Vous pouvez avoir une révolte des enfants de ces femmes seules qui élèvent leurs enfants justement. Et vous pouvez avoir aussi un vote politique contestataire de ras-le-bol.
La fameuse peur du déclassement dont on parlait à l'époque des Gilets jaunes.
Oui, mais vous avez aussi un élément essentiel chez ces Français. Beaucoup ont un métier indispensable, on l'a dit. Ils se sentent encore utiles et nécessaires. Le Covid a renforcé ce sentiment. Ça peut générer des souffrances parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens de bien faire leur métier. Mais ils ont encore, pour les personnels soignants, d'éducation, d'accompagnement, un rôle dans la société. Il faut juste éviter que les invisibles deviennent des oubliés.
Votre plus pour finir, l'État vole au secours d'Atos.
Fleuron de la cybersécurité, Atos va sécuriser les JO. Par exemple, le groupe est dans la tourmente. L'État a donc décidé d'acquérir les activités les plus sensibles qui pourraient menacer la sécurité et la souveraineté française. Supercalculateur utilisé pour la dissuasion nucléaire, contrat avec l'armée, serveur pour l'intelligence artificielle. Ça représente 900 millions de chiffres d'affaires pour Atos actuellement, toutes ces activités. Et l'État va créer un consortium en s'associant avec d'autres géants de l'industrie française.
Merci beaucoup, Martial Youlet. Pourquoi de l'info, Florian Gazan. Jusqu'à 1 million de personnes ces derniers jours à Berck dans le Pas-de-Calais pour le traditionnel festival international du cerf-volant qui s'est terminé un peu plus tôt que prévu d'ailleurs
à cause
du vent qui soufflait très fort. Bravo d'ailleurs à l'équipe de France qui est devenue championne du monde de cerf-volant acrobatique. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi un cerf-volant, ça s'appelle comme ça.
Bah oui, Jérôme, parce que autant volant, ça on comprend vu que ça se déplace au gré du vent. Mais cerf, par contre, c'est plus étonnant. Comme ça, a priori, il y a aucun rapport entre l'animal des forêts avec ses grands bois et un appareil volant identifié. Les rennes du Père Noël, ils volent, ok, mais un cerf, non. En fait, il n'y a aucun rapport. Tout est une histoire d'orthographe. On a longtemps pensé que le mot cerf faisait référence à un insecte volant qu'on appelle la lucane cerf-volant et qu'on a baptisé ainsi justement parce que ses grosses mandibules font penser au bois du cervidé.
Et donc là, comme ça, un insecte qui vole, ça se tiendrait.
Voilà, sauf que ça n'a rien à voir. Non, en fait, c'est dû à une évolution de la langue française. Cerf, à l'origine, ne s'écrivait pas C-E-R-F, mais S-E-R-P, cerf, serpe comme serpent, car les modèles de cerf-volant ramenés de Chine par Marco Polo en 1282 avaient la forme de dragon et de serpent, et ce pour une raison bien précise.
Mais quelle raison ?
Eh bien Caroline, en Chine, les cerfs-volants qui existent là-bas depuis 3000 ans n'étaient pas faits pour les enfants, mais pour les militaires. Ils étaient utilisés pour envoyer des messages à ses alliés ou pour établir des stratégies militaires. Par exemple, en 200 avant Jésus-Christ, le général chinois Han Xin, qu'on a bien connu, décida de creuser un tunnel pour le faire déboucher au milieu de la ville qu'il assiégeait. Pour calculer la distance à creuser, il utilisa un cerf-volant. Une fois celui-ci au-dessus de la ville, la longueur de fil utilisée pour l'atteindre lui donna la longueur à creuser.
Voilà. Malin, donc le cerf-volant n'était utilisé que pour la guerre.
Voilà, et aussi comme arme d'intimidation, utilisée pour effrayer ses ennemis en leur faisant croire qu'un mauvais esprit terrifiant planait au-dessus d'eux, d'où la forme d'animaux comme le dragon ou le serpent, quand même plus flippant qu'un Bambi adulte. En fait, comme au XIIIe siècle, le mot cerf, S-E-R-P, se prononçait de la même manière que le mot cerf, C-E-R-F, ce dernier plus utilisé chez nous, a fini par prendre le dessus, ce qui n'est pas le cas par exemple de nos voisins allemands. Chez eux, un cerf volant se dit Draken, un mot qui a deux sens puisqu'il veut aussi dire dragon. Mmh. Et oui, nos cousins germains sont plus souvent rigoureux que nous, y compris sur le vocabulaire.
Tiens, et question bête pour finir, pourquoi est-ce que c'est Berck dans le Pas-de-Calais qui est la mecque du cerf-volant ?
Il y a une raison, Jérôme. Berck n'a pas été choisi par hasard. C'est là, dans les années 1890, que furent prises quelques-unes des toutes premières photos aériennes de l'histoire. Réalisées comment ? Grâce à des cerfs-volants.
Merci beaucoup Florian Gazan. Dans 20 minutes, votre édito, Alba Ventura.
Je vais vous parler de Jordan Bardella en campagne ou comment ne pas prendre de risques.
A tout à l'heure. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
De la pluie dans le sud.
De la pluie dans le sud, mais du soleil dans d'autres régions quand même.
Merci d'écouter RTL.
RTL, vivre ensemble.
À l'écoute des entreprises avec l'APEC. Avec Sourcing Plus, l'APEC aide les TPE-PME à recruter les profils qui correspondent vraiment à leurs besoins. Plus d'infos dans un instant.
À tous ceux qui, quand on leur demande « je te resserre ?» répondent « oh non, merci, là je peux plus rien avaler ». À ceux qui disent « oh non, 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 pas de fromage non plus, là c'est... » Et aux mêmes qui vont quand même se jeter sur la dernière danette. Oui, donc ça passe quand ça t'arrange en fait. Hein ? Dès mardi chez Intermarché, pour l'achat de deux packs de crème dessert à la vanille danette à 1,46€ l'unité, le troisième est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 12 mai, 3 fois 500 grammes, soit 1,95€ le kilo au lot, transformé en France. Autre saveur disponible, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
RTL Matin.
Louis, donc, du soleil dans le sud, mais pas que.
Non. Du soleil dans le nord.
Dans le nord.
Ouais. Là, on a pas de la pluie dans le sud.
J'ai dyslexique de la météo.
Voilà. la pluie comme hier, on va la retrouver effectivement plutôt dans les régions allant des Pyrénées, Languedoc-Roussillon, remontant vers le Massif central, la Bourgogne. Là, ça va rester nuageux et pluvieux toute la journée. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il va pleuvoir sur les Pyrénées-Orientales. On attend jusqu'à 40-50 mm de pluie dans ce département. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. De la neige dans les Pyrénées au-delà de 2000 mètres. Et puis dans toutes les autres régions, de l'Atlantique à l'Île-de-France, Vallée de la Loire, remontant vers les côtes de la Manche ou encore le Nord-Pas-de-Calais, là, ça restera sec avec même par moments de belles éclaircies. On a un ciel tout bleu là sur Paris en ce moment, enfin en tout cas très bleu. On a également beaucoup de soleil sur la Normandie, sur la Bretagne. Et puis dans l'Est, on aura également un ciel un peu voilé, mais là aussi du temps sec, notamment entre les Alpes et la Corse. Corse où il y aura toujours du grand soleil. Et puis les températures, ben là où on a eu un ciel dégagé en cours de nuit, on n'est pas très loin des gelées. On a 2 degrés à Laval, 3 degrés à Deauville, à Caen ou encore du côté d'Angers. Ailleurs, on est déjà entre 5 et 10 degrés. Puis cet après-midi, ben là, les températures remontent. Alors 14 à 17 degrés des Pyrénées à la Bourgogne, là où il y aura des nuages et de la pluie toute la journée. Mais 17 à 22 degrés dans les autres régions, ah, ça a un petit air de printemps quand même.
Oh, ah bon ?
Temporairement.
Okay. Merci beaucoup à tous. Bonjour Amandine, bonjour Yves.
Excusez-nous, on disait quelle arnaque.
C'est le temporairement qui vous gêne aussi.
Non, il essaie de nous faire croire que c'est merveilleux, il va faire 14 degrés.
C'est une journée de beau temps, c'est ça Louis ?
Mais non, écoutez, on essaie de trouver le soleil et les bonnes nouvelles.
Voilà, hein. Mais c'est une journée dans la semaine, non ?
Oui, c'est ça.
Ah, voilà.
Et donc vous êtes fiers de vous ?
Je fais ce que je peux pour ne pas vous déprimer quand même.
Moi, ça ne marche pas.
Il y a du boulot.
Alors Louis devait vous rejoindre, il vient de changer d'avis.
Il s'en va. Il
va profiter de la journée de printemps.
Je les aime quand même.
Merci à toute l'équipe.
Bonne émission.
Bon matin, à demain, 4h30. Bonjour à tous, bonjour Amandine.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est donc la bonne nouvelle du jour. Ce matin sur RTL, on a peut-être trouvé, l'alternative à l'électrique, un carburant 100% renouvelable.
Oui, carburant fabriqué à base de maïs, de betterave, d'huile de colza, entre autres. 10 millions de voitures, 10 millions pourraient être concernées rien qu'en France. RTL l'a testé, le verdict ce sera dans un tout petit instant.
Et c'est passionnant, nous sommes le lundi 29 avril 2024. Très bonne journée à vous qui nous écoutez.